Bonjour à tous, voici l'émission de l'Église protestante unie de Chartres-Beaucéperche, animée par Jean-Paul et Marie-Christine de Heuvels. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour Marie-Christine et bonjour à tous.
Donc Jean-Paul va commencer la première lecture dans l'Ancien Testament.
Donc c'est Jérémie, le prophète Jérémie, chapitre 20, les versets 7 à 13. Seigneur, tu as abusé de ma naïveté. Oui, j'ai été bien naïf. Avec moi, tu as eu recours à la force et tu es arrivé à tes fins. À longueur de journée, on me tourne en ridicule. Tous se moquent de moi. Chaque fois que j'ai à dire la parole, je dois appeler au secours et clamer « violence, répression ». À cause de la parole du Seigneur, je suis en butte à longueur de journée aux outrages et aux sarcasmes. Quand je dis « je n'en ferai plus mention », je ne dirai plus la parole en son nom, alors elle devient au-devant de moi comme un feu dévorant. Prisonnier de mon corps, je m'épuise à le contenir, mais n'y arrive pas. J'entends les propos menaçants de la foule. C'est partout l'épouvante. Dénoncez-le. Oui, nous le dénoncerons. Tous mes intimes guettent mes défaillances. Peut-être se laissera-t-il tromper dans sa naïveté et nous arriverons à nos fins. Nous prendrons notre revanche. Mais le Seigneur est avec moi comme un guerrier redoutable. Mes persécuteurs trébucheront et n'arriveront pas à leur fin. Ils seront couverts de honte, ils ne réussiront pas. Déshonneur à jamais, on ne l'oubliera pas. Seigneur Tout-Puissant, toi qui examines le juste, qui vois sentiments et pensées, je verrai ta revanche sur eux, car c'est à toi que je remets ma cause. Chantez au Seigneur, louez le Seigneur, il délivre la vie des pauvres de la main des malfaiteurs.
La seconde lecture est dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 10, les versets 26 à 33. Ne les craignez donc pas. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est secret qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans l'ombre, dites-le au grand jour. Ce que vous entendez dans le creux de l'oreille, proclamez-le sur les terrasses. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent tuer l'âme. Craignez bien plutôt celui qui peut faire périr âme et corps dans la géhenne. Est-ce que l'on ne vend pas deux moineaux pour un sou? Pourtant, pas un d'entre eux ne tombe à terre, indépendamment de votre père. Quant à vous, même vos cheveux sont tous comptés. Soyez donc sans crainte, vous valez mieux, vous, que tous les moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai moi aussi devant mon Père qui est aux cieux.
Et la troisième lecture et dernière du jour, épître de Paul aux Romains, chapitre 5, les versets 12 à 15. Voilà pourquoi, de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort a atteint tous les hommes, d'ailleurs tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde, et bien que le péché ne puisse être sanctionné quand il n'y a pas de loi, pourtant d'Adam à Moïse, la mort a régné, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression identique à celle d'Adam, figure de celui qui devait venir. Mais il n'en va pas du don de grâce comme de la faute. Car si par la faute d'un seul, la multitude a subi la mort, à plus forte raison, la grâce de Dieu, grâce accordée en un seul homme, Jésus-Christ, s'est-elle répandue en abondance sur la multitude.
I pitched my tent on high ground, where I know the Lord, oh yes, would be around, oh yes. Now what's my soul? And I wonder if I You know the Lord did bless me good.
I pitched my tent
on higher ground.
On higher ground.
Where I knew the Lord would be around.
Would be around.
Church, you know I pitched my tent.
I pitched my tent
on solid ground.
On solid ground.
And for the promised land.
Ces trois textes que nous venons d'entendre dans le livre de Jérémie, dans l'Ancien Testament, dans l'Évangile de Matthieu et dans l'Épître de Paul aux Romains, chacun de ces textes nous parle à sa manière de mort et de vie, de souffrance et d'espérance, de peur et de foi, de péché et de grâce, d'Adam et de Jésus-Christ, de l'homme et de Dieu. Nous allons d'abord revenir un petit peu sur le chapitre 20 du livre de Jérémie. Jérémie est ce prophète tourmenté, sensible, fragile et fort, habité par une parole de Dieu qui le brûle comme un feu. Il doit dénoncer les illusions, les fausses paix, les lâchetés, les compromissions, les tentations de l'idolâtrie, le péché du peuple de Juda, au moment où Babylone est menaçante et où les chefs du peuple, les politiques et les religieux ne veulent pas voir le danger venir. Quelques années en fait avant la dévastation de Jérusalem et avant l'exil à Babylone. Tout le monde en veut aux prophètes. Aujourd'hui encore, on l'affuble du titre peu enviable de prophète de malheur, et on a fait avec son nom le mot peu glorieux et peu estimé de Jérémiade. Tout cela parce que Jérémie ne pouvait pas cacher la vérité. Il ne pouvait pas ne pas avertir, ne pas prophétiser, ne pas prêcher la parole que Dieu lui confiait.
Mais Jérémie savait aussi consoler dans le malheur et la désespérance. D'une certaine façon, il a pris sur lui tout le malheur et tout le destin de son peuple. Sa vie, offerte, exposée, annonce en quelque sorte la croix du Christ, vie offerte aux hommes, aux pécheurs.
Personne n'aime être dans la situation de Jérémie. Sa parole forte, sans complaisance, parfois brutale, ne lui attirait ni amitié ni sympathie, mais au contraire haine, persécution et accusation de trahison. Puisque Jérémie parlait de cette façon du danger imminent, de la menace babylonienne, c'est donc qu'il était un collaborateur de Babylone. Un espion à la solde de l'étranger l'accusait les autres, ses prophètes complaisants, ses prophètes de cour.
Alors, en ce chapitre 20 de son livre que nous avons lu, après s'être heurté une fois de plus à la colère et à la persécution des prophètes et des prêtres officiels, à Pachehour, le recteur du temple de Jérusalem, qui le fit attacher au pilori, parce que Jérémie venait de proclamer « Ainsi parle le Seigneur, le Tout-Puissant, le Dieu d'Israël, je vais faire venir sur cette ville tous les malheurs que j'ai décrétés contre elle, car ils ont raidi la nuque, ne voulant pas écouter mes paroles. » Jérémie, quand il se retrouve tout seul devant son Dieu, dans la prière, craque et se révolte.
Il n'en peut plus de ce rôle de prophète que Dieu lui a confié et il dit « Seigneur, tu as abusé de ma naïveté. Je me suis laissé faire. Tu m'as bien eu. Et voilà, je suis amené à prophétiser, à dire des choses désagréables qui ne font plaisir à personne. On m'attache au pilori. Dès que je parle, on me bat, on m'emprisonne. On use de la violence contre moi, on se moque de moi. Et me voici bien piégé, car je ne peux plus m'empêcher de dire ta parole, de prophétiser. »
Ta parole me brûle. Quand je dis, je ne dirai plus la parole en son nom, alors elle devient au-dedans de moi comme un feu dévorant. Nous vivons ainsi en direct, en quelque sorte, par la confession de Jérémie, tout ce drame spirituel et moral qui se joue en cet homme, jusqu'au moment où, on ne sait trop pourquoi, brusquement, la situation se retourne et Jérémie reçoit en lui une force nouvelle qui le remet debout, sans doute jusqu'à la crise suivante. Et notre texte se termine par une détermination et un courage tout neuf.
« Mais le Seigneur est avec moi comme un guerrier redoutable, dit Jérémie. Seigneur Tout-Puissant, toi qui examines le juste, qui vois sentiments et pensées, je verrai ta revanche. C'est à toi que je remets ma cause. » Et la prière désespérée s'achève sur un chant. « Chantez au Seigneur, louez le Seigneur. Il arrache la vie des pauvres au pouvoir des malfaiteurs. »
Invisible are waiting to guide you. Invisible hands from invisible hand, invisible hand, invisible hand, invisible hand.
Mission de l'Église protestante unie de Chartres-Beauce-et-Perche. Nous vous parlons aujourd'hui de Jérémie, de prophète Matthieu, de l'épître de Paul aux Romains, de ceux qui se déclarent pour Jésus-Christ, qui ont des missions à accomplir. Les intermèdes musicaux seront assuré par des extraits de Negro Spirituals du Golden Gate Quartet. Donc le deuxième texte que nous avons lu tout à l'heure se trouve au chapitre 10 de l'évangile de Matthieu. Jésus s'adresse à ses disciples dans un grand discours d'envoi en mission. La mission sera difficile comme elle avait été pour Jérémie, nous venons de le voir. Jésus annonce des persécutions. « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. » Soyez donc rusés comme les serpents et candides comme les colombes. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom.
On sait à quel prix, en effet, l'évangile chrétien s'est répandu dans le monde gréco-romain au 1er siècle, puisque le mot « martus », qui veut dire « témoin », a pris le sens de « martyr », un sens que l'on connaît bien. Mais notre texte, vers la fin du chapitre, est une parole d'encouragement de Jésus à ses disciples. Il commence par les mots « ne les craignez pas ». Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent tuer l'âme. L'âme, ici, dit une note de la Tobe, traduit le mot grec « psyché ». C'est le principe personnel de la vie.
Le contraire de la peur, c'est la parole proclamée, c'est la foi. Là où des hommes libres osent parler, osent dépasser leur peur, leur angoisse personnelle, leur égoïsme, la mort recule. Le royaume de Dieu se révèle aux yeux des hommes. Ne craignez pas les hommes, dit Jésus. Ne craignez pas de dire l'évangile, de proclamer la bonne nouvelle du royaume de Dieu qui vient. Il n'y a rien de caché qui ne sera révélé, dit Jésus. Rien de secret qui ne sera connu.
Autrement dit, le royaume de Dieu est déjà en marche. Il a déjà sa propre dynamique, sa propre force. À vous d'aider le mouvement. Soyez des hommes à l'écoute du mystère du royaume, à l'écoute de la parole de Dieu, disponibles à la parole, comme le prophète Jérémie. Rien ne pourra empêcher l'avènement du royaume. À vous d'en annoncer l'évangile, la bonne nouvelle. À vous de vous libérer de la peur.
Par la foi, c'est-à-dire par la confiance. En reconnaissant la présence de Dieu à l'œuvre au milieu même des persécutions et des souffrances. Sachez reconnaître la naissance d'un monde nouveau dans les douleurs mêmes de cet enfantement dont parle Paul dans sa lettre aux Romains au chapitre 8. Dieu n'est pas absent de l'histoire du monde, même en ses épisodes les plus chaotiques. Ne craignez pas ce qui vous tue, ce qui tue le corps.
Ils ne peuvent pas tuer la vie, ils ne peuvent pas tuer l'âme, ils ne peuvent pas tuer le royaume en marche. Ils ne voient pas que Dieu est là, mais Dieu est là. Ils ne voient pas que Dieu est à l'œuvre, mais Dieu est à l'œuvre.
Dieu est présent au pire moment de nos vies, en nos maladies, en nos souffrances, en notre mort. Ne craignez pas, même vos cheveux sont tous comptés, dit Jésus. Soyez donc des témoins tenaces de l'Évangile, des porteurs déterminés de la parole, des témoins du Christ ressuscité, du Christ crucifié et ressuscité, de celui qui a vaincu la mort, de celui qui a prononcé les béatitudes, de celui qui nous a bénis.
Ne craignez pas de parler, envers et contre tout. Ne craignez pas de témoigner. Quiconque parlera pour moi devant les hommes, je parlerai moi aussi pour lui devant mon Père qui est aux cieux.
If in the sun or a star you and don't be afraid of the dark. At the end of a storm, there's a and the sweet silver song of a love.
Le troisième texte de ce jour est celui des versets 12 à 15 du chapitre 5 de la lettre de Paul aux Romains. Le chapitre 5 de cet épître de Paul est l'un des plus importants et des plus célèbres du Nouveau Testament. On a souvent dit que c'était un chapitre théologique puisqu'il est cité comme argument principal des positions des réformateurs, de Luther et de Calvin, sur le thème de la justification par la foi seule, sola fide. Il commence ainsi. Étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ.
Et en réalité, ce chapitre, il est théologique, certes. Je ne veux rien lui enlever de sa partie théologique, et la théologie est d'une importance capitale dans la vie de l'Église et dans l'évangélisation du monde. Mais ce fameux chapitre 5 dit la théologie de la justification, de la foi, du salut, de la grâce, de la résurrection et de la vie, avec une sorte de passion, de conviction brûlante. La parole de feu qui brûlait le cœur et le corps du prophète Jérémie semble brûler de la même façon le cœur et le corps de l'apôtre Paul.
C'est un homme convaincu qui parle, un théologien engagé par sa propre expérience religieuse, par sa foi personnelle, par son émerveillement de la découverte de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Ce chapitre 5 des Romains est donc un chant, un chant de la foi, un enchantement, un émerveillement.
N'essayez pas de le lire et de vous casser la tête en y découvrant une logique cartésienne qui ne s'y trouve certainement pas. Et pourtant, il y a une logique dans ce texte. Une logique de la foi, de la victoire de la résurrection sur la mort et sur le péché, de la joie du salut en Jésus-Christ qui balaye toute malédiction du péché, toute malédiction due à Adam, toute misère humaine. Il y a abondance, nous dit Paul, surabondance.
Le mystère du péché et de la mort dans la destinée des hommes, Adam était le nom générique des hommes depuis le premier jusqu'à nous, ce mystère inacceptable de notre mort et de notre péché, qui a été dévoilé, mis à nu en quelque sorte par la loi de Dieu, par la Torah, rendu virulent en quelque sorte par la dénonciation même qu'en fait la loi, voici qu'il rencontre un autre mystère bien supérieur, le mystère de l'amour de Dieu en Jésus-Christ crucifié et ressuscité.
Adam n'était en fait qu'une annonce du Christ. Notre condition humaine, mortelle et pécheresse ne se comprend vraiment qu'à travers la victoire de la croix et de la résurrection de Jésus-Christ. Adam ne se comprend qu'à partir du Christ, qu'à partir du moment où sa mort est dépassée par la résurrection du Christ, qu'à partir du moment où son péché est pardonné, dépassé, aboli par le don de vie et d'amour du Fils de Dieu, de l'homme sans péché. Il a aboli l'acte d'accusation contre nous en le clouant sur la croix, nous dit Paul dans une lettre aux Colossiens au chapitre 2.
Nous sommes sauvés de la mort, sauvés de la malédiction du péché. Nous sommes libérés, nous sommes libres, par grâce, gratuitement, par amour, par le don d'une vie offerte. Justifiés par la foi, c'est-à-dire en faisant confiance totale et absolue à cet acte d'amour de Dieu qui éclate en Jésus-Christ crucifié et ressuscité.
Au milieu de nos crucifixions, nous sommes accompagnés par l'amour de Dieu. Au milieu de nos crucifixions, nous sommes accompagnés par celui qui est crucifié. Notre mort est dépassée en la mort dépassée du Christ crucifié et ressuscité. Adam, dit Paul, n'était que la figure de celui qui devait venir. Jésus-Christ est la réponse au mystère de mon péché et de ma mort.
Je ne me comprends pas moi-même. Je ne comprends pas le mystère de ma misère adamique. Hélas, dit Paul au chapitre 7 de la même lettre aux Romains, je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas faire. Je découvre en moi une loi qui me dépasse, qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux homme que je suis, qui me délivrera ?
Oh, nobody knows the trouble I've seen. Nobody knows but Jesus. Nobody knows the trouble I've seen. Sometimes I'm up, sometimes I'm down. Oh, yes, Lord. Sometimes I'm almost to the ground. Lord.
Ce cri de Paul, « Malheureux homme que je suis, qui me délivrera ?» est aussi notre cri. Son angoisse et sa désespérance sont aussi notre angoisse et notre désespérance. Puisse son chant de joie devenir aussi notre chant de joie. Car Paul nous dit à la fin du chapitre 7, « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. »
Paul a rencontré le Christ ressuscité sur le chemin de sa vie, un jour où il se rendait à Damas. Et toute sa vie en a été changée, bouleversée. Dans le texte de l'Épître aux Romains que nous avons lu aujourd'hui, il chante donc la logique de l'amour plus fort que la peur, de la grâce de Dieu plus forte que notre péché, de l'Esprit du ressuscité en nous plus fort que notre mort.
Le péché est fort, mais la grâce et l'amour de Dieu sont plus forts encore. Le mystère du Christ en nous est plus grand encore que le mystère d'Adam en nous. En Jésus-Christ, Dieu fait irruption en ma vie humaine, et tout reprend alors sa juste proportion, y compris mes peines, mes croix, mes peurs, mes maladies, mon péché et ma mort.
Écoutons enfin cette affirmation finale de notre texte de l'Épître de Paul aux Romains, sur l'abondance de la grâce, sur la surabondance. Il n'en va pas du don de la grâce comme de la faute, dit Paul. Car si par la faute d'un seul, c'est-à-dire d'Adam, la multitude a subi la mort, à plus forte raison, la grâce de Dieu, grâce accordée en un seul homme Jésus-Christ, a-t-elle été répandue abondamment sur la multitude ?
Victoire, vie, résurrection, amour, salut, grâce, justification, abondance, surabondance. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ, nous dit Paul. Dieu nous bénit en Jésus-Christ. Dépassant nos peurs, nos peines, nos souffrances, nous pouvons nous aussi chanter avec Paul. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
Amen.
Je vous rappelle qu'il y a culte tous les dimanches à 10h30 au temple 20 rue Saint-Thomas. Je vous dis au revoir et à bientôt.
Au revoir et à bientôt.
I'm going to lay down my burden down by the riverside, down by the riverside, down by the riverside. I'm going to lay down my burden down by the riverside. The steady ain't worn no more, no more. Well, there ain't going steady worn no more. Well, there ain't going steady worn no more. Well, there ain't going steady worn no more.
Sword and shield
down by the riverside,
down by the riverside,
down by the riverside.
Gonna lay down my sword and shield,
well, down by the riverside. But steady ain't war no more, no more.
Well, I ain't gonna steady think about war no more. I ain't gonna steady think about my troubles anymore. I'm gonna steady think about my fiddle and bow. I'm gonna play by the river.